Il est 6h.
Est-ce que vous la reconnaissez, cette petite
musique,
Jean Mineur, elle revient ce matin, enfin, c'est la réouverture des salles de cinéma. Jean-Luc Boujon nous attend à Saint-Étienne, figurez-vous que des leftos sont déjà là. Un déconfinement espéré par de nombreux Français, on le sait, alors que pour d'autres, eh bien, ce retour à une vie de contact est un vrai stress, on va vous expliquer. À la une de l'actualité également, des policiers en colère qui s'apprêtent à manifester. Nous verrons si le ministre Darmanin a raison de se tenir à leur côté. Et puis l'Arctique, objet de toutes les convoitises, sera à la fin de ce journal.
Et juste après le journal des sports de Cédric Chasseur et puis le cabaret du Crazy Horse fête aujourd'hui ses 70 ans et mon invité inattendu réussit le tour de force d'y être danseuse la nuit tout en étant infirmière de bloc opératoire le jour. Impressionnante double vie à découvrir dans 20 minutes. Bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et ça y est, nous y sommes, nous allons bientôt pouvoir nous installer à une terrasse pour un petit café, même trop cher, avant d'aller travailler ou boire un verre avec quelques amis jusqu'à 9h ce soir. Terrasse de bar, restaurant, musée, cinéma, tout le monde retrouve les clients, tous ces petits moments de vie dont on était privés depuis de longs mois. Jean-Luc Beaujon, vous êtes en direct avec nous ce matin depuis Saint-Étienne, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, ce n'est pas au café que vous allez dans l'immédiat, mais bien au cinéma. Alors franchement, c'est tôt pour une première séance. Est-ce qu'il y a un petit peu de monde déjà au Méliès ce matin ?
Alors, ces spectateurs très matinaux sont en train d'arriver petit à petit au Méliès. On est ici en plein centre-ville de Saint-Étienne, place Jean Jaurès. On en attend environ une centaine de ces spectateurs. C'est encore difficile à dire car il n'y a pas de réservation pour cette première séance. Vient qui veut, en fonction de la jauge bien sûr qui est de 35%. Mais le patron du cinéma m'a assuré qu'il avait reçu énormément de messages de passionnés qui lui ont dit qu'il serait présent ici au lever du jour. Même des gens venant de Haute-Loire à plus de 100 km d'ici pour regoûter au plaisir de se faire une bonne toile. La bonne toile, justement, projetée dans trois salles à partir de 6h30, c'est le film Petite Maman de la réalisatrice Céline Sciamma. Elle avait été récompensée du César du meilleur film l'an dernier pour son Portrait de la jeune fille en feu. C'est donc un film très attendu, en plus d'être le premier qui sera projeté en France depuis plus de 7 mois. Un retour devant le grand écran très spécial avec cet horaire. Il est accompagné d'un petit déjeuner que le patron va offrir d'ici quelques minutes aux passionnés. Et il marque le coup d'envoi d'une orgie de cinéma aujourd'hui au Méliès avec pas moins de 8 films projetés toute la journée. Ça fait une séance toutes les 2 heures jusqu'à la dernière ce soir à 19h30. C'est dire si ici on attendait fiévreusement ce retour dans les salles obscures.
Eh ben merci beaucoup Jean-Luc Boujon et bonne séance.
Et allez boire un café au Poteau Carré après cette séance. C'est juste à côté, place Jean Jaurès, pour une ambiance bien stéphanoise.
Je retiens le conseil.
Alors, on disait retour à la normale ou presque dès ce matin. On n'oublie pas qu'il reste un certain nombre de restrictions.
Oui, d'ailleurs, Jean-Luc le rappelait, ça vaut pour le cinéma, ça vaut aussi parce que la réussite de ce déconfinement va dépendre de notre comportement. On fait le point justement sur ces mesures sanitaires avec Maud Descamps.
Il y a évidemment le port du masque qui reste obligatoire partout, en intérieur et en extérieur. Cela ne change pas. Il faudra également veiller à bien se désinfecter les mains à l'entrée. Une procédure obligatoire dès l'âge de 11 ans. Et comme dans les commerces essentiels, les clients seront incités à venir avec leur propre sac et à privilégier le paiement par voie électronique. Mais le protocole ne s'arrête pas là. Comme le détaille Damien Desforêts, directeur général des magasins CEA.
Tous nos collaborateurs seront équipés de masques et voire même de gants afin d'être sûr qu'il n'y a absolument aucun risque. Quand vous allez passer en caisse, bien sûr, il y aura un plexiglas. Et pour le moment, nous avons pris la décision de fermer les cabines d'essayage. Et pour fluidifier le flux client, il y aura tout un petit parcours indiqué au sol avec des flèches.
Que ce soit les commerces d'habillement ou les lieux culturels comme les théâtres, musées et cinémas, il y a une jauge à respecter dès aujourd'hui, 8 mètres carrés par client aux visiteurs. Celle-ci passera à 4 mètres carrés le 9 juin et il faudra attendre le 30 juin pour revenir à une capacité d'accueil de 100%.
Maud Descamps pour Europe 1 et puis attention, ce soir tout à votre déconfinement, il n'y a pas de dérogation concernant le couvre-feu, il passe évidemment à 21h, mais la règle est claire, vous devrez rentrer chez vous à cet horaire.
Alors on a tendance à penser que tout le monde est très impatient à l'idée d'en profiter un peu, mais c'est pas forcément le cas.
Non, pour certaines personnes, ce retour à la vie sociale, aux retrouvailles, aux contacts est une vraie source d'angoisse, ça porte un nom, le syndrome de la cabane. C'est la peur en fait de sortir chez soi et ça n'a rien de bizarre. Pour nous l'expliquer, le docteur Christophe Dubien, psychiatre au CHU de Lille.
Je pense que c'est normal parce que voilà, nos capacités d'adaptation ont été
franchement mise à rude épreuve là depuis plus d'un an, confinement, déconfinement, semi-déconfinement, reconfinement, enfin on a dû s'adapter dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale. Donc avoir une réticence à s'adapter à un énorme changement, puisque là c'est d'un seul coup on retrouve une vie quasi classique, on va dire. Ben ça va demander un peu de temps. Il faut y aller progressivement. Il faut respecter un peu les limites de chacun, accompagner ceux qui ont du mal. Peut-être qu'on va aller à la terrasse de café à l'angle et pas au centre-ville. Voilà, ce sont des étapes comme ça et franchir ces étapes ensemble. Surtout, ce qui est important, c'est d'être ensemble.
Le docteur Christophe Dubien, psychiatre à Lille avec Anne Le Gall pour Europe 1.
6h06, à la une de l'actualité également, ces milliers de policiers attendus devant l'Assemblée nationale aujourd'hui à 13h à l'appel de tous leurs syndicats.
Ils vont exprimer leur ras-le-bol après les meurtres d'Éric Masson et de Stéphanie Monfermé. Un rassemblement qui se veut citoyen et qui souhaite éviter toute forme de récupération. Il n'empêche qu'hormis la France insoumise, les représentants de toutes les formations politiques seront là. Présent également le ministre de l'Intérieur. Louis Dragnel, est-ce que Gérald Darmanin prend un risque cet après-midi ?
Oui, l'image du chef au milieu de ses troupes, aux côtés de ses hommes dans la tourmente. C'était ça l'idée de départ de Gérald Darmanin, une idée qui a tout de suite plu à Emmanuel Macron qui lui a donné sa bénédiction, tout en balayant d'un revers de main les accusations de récupération politique ou d'intimidation, la présence du ministre de l'Intérieur pouvant, comme l'ont dit certains, empêcher la liberté de ton des fonctionnaires de police en colère. En vérité, Gérald Darmanin n'a que des coups à prendre en participant à ce rassemblement, avec d'un côté le risque qu'il y ait des discours hostiles à la politique du gouvernement et de l'autre la crainte qu'il se fasse siffler, huer par des policiers ou des manifestants, ce qui ne serait pas bon du tout pour son image et celle de l'exécutif. Pour limiter les risques, Gérald Darmanin devrait donc se contenter de passer quelques minutes pour saluer les policiers au début du rassemblement avant de s'éclipser.
Les précisions de Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. J'ajoute qu'un jeune homme de 17 ans a été tué par arme blanche hier en début de soirée à Champigny-sur-Marne, c'est en région parisienne. L'auteur présumé des faits, un mineur, lui aussi a été interpellé peu après. À ce stade, les enquêteurs ne savent pas encore s'il s'agit d'une rixe entre bandes de jeunes ou d'un règlement de compte.
Pas de répit cette nuit au Proche-Orient alors que la diplomatie était et c'est tant bien que mal d'avancer.
Les roquettes du Hamas et les frappes israéliennes ont fait de nouvelles victimes. Hier, la France, soutenue par l'Égypte et la Jordanie, a proposer une résolution de cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l'ONU. Le conflit au Proche-Orient qui a fait 230 victimes depuis qu'il a commencé il y a une dizaine de jours. Et puis aux États-Unis, on apprend ce matin que la Trump Organization est visée désormais par une enquête pénale et non plus seulement civile. L'ancien président est soupçonné d'avoir fourni des évaluations incorrectes des actifs de l'entreprise familiale. Le but, obtenir des allègements fiscaux et des prêts avantageux.
6h08, direction l'Arctique. Pour terminer ce journal, plusieurs États, les Naïcs se dispute ce territoire.
Le pôle Nord, objet de toutes les convoitises depuis que la glace fond, parce que d'en dessous, on retrouve de précieux hydrocarbures. Une dizaine de pays qui bordent cette zone se retrouvent donc aujourd'hui en Islande pour un conseil de l'Arctique, pour évoquer évidemment environnement, business, mais aussi stratégie militaire. Jean-Sébastien Soldaini.
Si les Russes voulaient afficher une pancarte Arctique chasse gardée, ils ne s'y prendraient pas autrement. Moscou a doublé le nombre de bases militaires en 15 ans sur la zone et le chef de la diplomatie vient de le rappeler, l'Arctique, ce sont nos terres et notre territoire. C'est surtout leur machine à cash. La moitié du budget de l'État vient des immenses champs pétroliers et gaziers du Grand Nord. Alors Alexandre Tête, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, reste persuadé que malgré la fermeté affichée, la Russie n'a aucun intérêt à froisser ses voisins.
L'avenir de l'équilibre financier de la Russie est bien en Arctique. Et en fait, aujourd'hui, la Russie va surtout sortir son gaz et son pétrole par des méthaniers brise-glace, par des tankers brise-glace qu'elle est en train de construire. Et donc, elle a besoin de relations pacifiées pour sortir ce gaz et de pétrole qui est indispensable à son économie.
Les Américains appellent à ne pas militariser l'Arctique. Ce n'est a priori pas une question de sécurité, mais de liberté de circulation. Car en prenant contrôle de la zone, Moscou pourrait instaurer un droit de passage aux navires de commerce tentés par la route du Grand Nord.
Les explications de Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Lénaïque Monnier. Il est précisément 6h10. Et à la une, évidemment, Cédric Chasseur, cette liste des 26 pour l'Euro de Didier Deschamps.
On en a beaucoup parlé de Karim Benzema, sujet très commenté sur les réseaux sociaux. Vous l'avez entendu avec Martin Lange tout à l'heure. Écoutez, la réaction de Léo Dubois, le défenseur de Lyon, va disputer sa première grande compétition internationale.
Très content parce que c'est un joueur de classe mondiale, un joueur qui a gagné énormément de titres, qui a énormément d'expérience et je pense que il va pouvoir justement l'apporter au groupe. Tout simplement, c'est un joueur avec une qualité énorme et le fait de pouvoir retrouver ce style de joueur pour aller sur une grosse compétition comme celle qui nous attend, ça peut être que bénéfique pour nous.
Léo Dubois, très heureux de pouvoir jouer sous le même maillot que Karim Benzema au micro de Julien Froment. La liste complète, je vous le rappelle, elle est sur Europe 1.fr.
Le football, c'est aussi la finale de la Coupe de France ce soir entre le Paris Saint-Germain et Monaco.
Semaine décisive pour le PSG qui pourrait terminer avec deux titres ce soir et dimanche en championnat. Ou rien du tout. Oui. Avec la Coupe de France, le club parisien s'assurerait tout de même de sauver un peu sa saison. Le capitaine Marquinhos.
Pour nous, maintenant, on a deux finales à jouer. C'est notre première finale. C'est notre plus grand focus maintenant. On connaît de l'importance de ce match. On connaît aussi l'adversaire qu'on a en face. Alors, il faut vraiment bien se concentrer, bien se préparer, parce que ça va être un grand choc.
Marquinhos au micro de Julien Froment et cette finale de Coupe de France est à suivre ce soir dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau.
Marquinhos qui pourrait devenir le premier joueur à 6 Coupes de France ce soir en cas de victoire. Le tennis, Cédric Chasseur a une défaite d'entrée pour Roger Federer à Genève.
Le Suisse battu par Pablo Andújar est en manque de rythme. C'est la même chose pour Joe Wilfried Tsonga battu lui à Lyon. Ça passe en revanche pour Richard Gasquet et Gaël Monfils qui renoue avec une victoire qui lui échappait depuis 15 mois. Il a battu en 2-7 le Brésilien Thiago Seboswild.
Non, toi, j'ai gagné mon premier tour à Lyon, je suis content. Bien sûr, j'étais nerveux, j'ai envie de bien jouer, j'ai envie de bien faire les choses. Donc, je construis ma confiance pour arriver au top dans les rendez-vous que je me suis fixé moi-même. Je ne vais pas révolutionner la chose que continuer à m'entraîner et croire en moi.
Gaël Monfils au micro de Corinne Boulou, il affrontera au prochain tour le japonais Nishioka.
On termine ce journal des sports avec du basket.
L'équipe de France féminine est à Toulouse cette semaine pour préparer l'Euro, deux mois avant les JO. Au menu, deux matchs amicaux face à l'Espagne au Palais des Sports. Dimanche et lundi, il y aura du public, 800 personnes par match. La capitaine des Bleus, Andy Miem, en salive d'avance.
Je suis vraiment impatiente, parce que j'ai envie de dire limite, je ne sais plus ce que c'est de jouer devant du public. J'en ai des souvenirs lointains comme quoi c'était quand même agréable, ça a nous poussé, mais c'est vrai que là ça a été très très long cette saison. Voilà, je pense qu'on a vraiment toute hâte de retrouver le public, de pouvoir être en communion et de vivre encore de belles émotions.
Andy Miem qui réagissait au micro Europe 1 d'Axel May.
Eh oui, 1000 personnes maximum, le retour du public dans les stades, c'est aussi ça, cette deuxième vague du déconfinement. Merci beaucoup Cédric Chasseur.
Europe 1.
6h13, on fête donc un anniversaire ce matin sur Europe 1. Il y a 70 ans, jour pour jour, le 19 mai 1951, le Crazy Horse ouvrait ses portes avant de devenir un lieu culte des nuits parisiennes tout près des Champs-Élysées. Et mon invité inattendu réussit la double prouesse d'être danseuse au Crazy Horse la nuit et infirmière à l'hôpital le jour. Bonjour.
Bonjour, c'est Daniela.
Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Daniela dans la vie civile et Tina Tobago le soir au Crazy Horse. C'est une double vie assez incroyable que vous menez, évidemment chamboulée en cette période de pandémie. On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Théo Manval sur Europe 1.
Mon invité inattendu ce matin est donc soignante le jour et danseuse au Crazy Horse la nuit. Tina Tobago, puisque c'est votre nom de scène, comment est-ce que vous en êtes arrivée à 32 ans à jongler avec ces deux activités qui doivent être toutes les deux assez prenantes quand même, j'imagine?
Oui, en effet, elles sont très prenantes et ce sont deux activités, deux métiers pour lesquels j'ai énormément de passion, beaucoup de vocation pour mon métier d'infirmière et une grande passion pour la danse. Et j'ai refusé de faire un choix il y a quelques années et de mettre un des deux de côté. Et j'ai choisi de faire les deux, d'en faire dans un premier temps mon travail principal en tant que danseuse, car la danse n'est pas éternelle et il faut en profiter tant qu'on peut encore. Et j'ai décidé de continuer à exercer en tant qu'infirmière parce que c'est un métier dont je ne peux pas me passer non plus. Voilà.
Vous étiez infirmière avant de réussir le concours d'entrée pour le Crazy Horse. Vous avez fait un bac S, des études scientifiques, un conservatoire de gym et de danse en parallèle. C'est très compliqué d'entrer au Crazy Horse. Il y a des critères physiques d'abord et puis une sélection qui est drastique.
Très drastique, en effet. Enfin, c'est en même temps quelque chose de très... On peut pas toucher ou savoir exactement ce qui est recherché puisque à l'audition... La directrice artistique et tous les collègues, enfin tous ceux qui sont responsables du recrutement cherchent cette chose qui ne peut pas être déterminée, qui ne peut pas être nommée. C'est un je ne sais quoi chez la danseuse qui fera qu'elle deviendra plus tard Crazy Girls, une danseuse du Crazy Girls.
Et vous avez donc passé le cap, 500 candidatures pour 30 danseuses seulement retenues chaque année. Vous êtes donc danseuse la nuit et le jour, infirmière depuis plus de 10 ans. Vous avez notamment beaucoup donné pendant la pandémie. Vous vous êtes portée volontaire en réanimation dans votre hôpital de région parisienne. Ça a dû prendre un petit peu toute la place dans votre vie quand même depuis.
Oui, alors j'ai exercé en réanimation et aux urgences, surtout au début de la pandémie, pendant les deux premières vagues. C'était très intense parce que déjà ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette activité aussi forte, en tout cas en tant qu'infirmière, vu que je jonglais sur les deux tableaux. Donc là, je me suis investie intégralement. Je suis revenue complètement sur mes pas et voilà, j'ai travaillé en réanimation et aux urgences. Ça a été très difficile, ça a été vraiment très dur. Je l'ai fait vraiment pour aider mes collègues, pour essayer de leur apporter mon soutien le plus possible, et c'est ce que je ferai tout au long de ma vie, de toute façon, je pense. Quelque chose que je ne pourrais pas tourner le dos à cette profession, pour moi c'est impossible. Et aujourd'hui, j'applaudis encore tous ces soignants, tout ce personnel médical qui est encore aujourd'hui dans des conditions parfois aussi difficiles, même si ça va mieux, et c'est ce qu'on recherche tous, mais je les applaudis encore parce que j'ai un très grand respect pour tout ce personnel et toutes ces personnes fortes.
Et c'est bien de le redire, et on l'a tous, ce respect, évidemment. En période habituelle, on va dire, comment est-ce que vous réussissez à passer au quotidien de l'un à l'autre, du bloc opératoire à la scène du Crazy Horse?
Alors c'est un exercice qui est assez compliqué, puisqu'il faut bien se connaître, il faut connaître ses limites, savoir si on est capable d'enchaîner des journées parfois qui peuvent être assez longues. J'ai toujours préféré faire des grandes journées à l'hôpital. C'est vraiment éprouvant, physiquement, mentalement.
Et il faut est-ce que vous les groupez ces journées par exemple, ou est-ce que vous faites vraiment journée à l'hôpital et soirée jusque tard dans la nuit au Crazy Horse? Comment ça fonctionne?
Cela dépend de mon planning au Crazy Horse en fait. Je m'adapte en fonction de mon planning au Crazy, en fonction de mon état de fatigue, mon état corporel et mental, parce qu'il faut être à 100% dans les deux domaines.
Est-ce que parfois les deux univers se mélangent? Est-ce que vous pensez au cabaret à l'hôpital ou vice-versa?
Bien sûr, ça m'arrive. Ça fait partie intégrante de moi, donc en effet, si j'enchaîne ces deux journées, je vais me poser la question si j'ai pas oublié de certaines transmissions, quand je suis partie tout était bien, et puis c'est des petits flashs qui vont arriver inconsciemment auxquels je vais penser, et puis ça s'en ira aussi vite que c'est apparu en général, et puis inversement, oui, en effet, des fois, je vais avoir quelques douleurs quelque part, et je vais me dire, il faut que je me repose pour demain, pour être sur scène en forme. C'est des choses qui ne sont pas incompatibles, tout fait partie de moi, donc forcément, je ne divise pas mentalement ces deux professions. J'accompagne en fait tout ce bagage avec moi, sur tous les lieux où je vais.
Vous avez 32 ans, vous êtes en pleine force de l'âge. Jusqu'à quand est-ce que vous voyez tenir ce double rythme d'athlète, finalement?
Eh bien, ce double rythme d'athlète, je ne me suis pas réellement posé la question, mais j'ai beaucoup de projets pour la suite. Je pense à faire d'autres formations. À quel âge, je ne sais pas. Mais j'essaie d'en profiter en tout cas aujourd'hui au maximum, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et cette année est vraiment un bel exemple d'inattendu, quoi.
Et vous serez donc de la réouverture du Crazy Horse le 9 septembre prochain. Infirmière le jour, danseuse de haut niveau la nuit. Merci beaucoup, Daniela, alias Tina Tobago, d'avoir fêté avec nous les 70 ans du Crazy Horse. On vous souhaite de retrouver beaucoup de bonheur sur scène. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Europe 1. Théo Manval.
L'essentiel à 6h20, et ça y est, on y est depuis 21 minutes maintenant. Les premiers cafés crèmes sont de nouveau servis aux terrasses partout en France. Retour des petits plaisirs de la vie, restaurants, bars, mais aussi commerces non essentiels, cinéma, musée. Attention, pas de dérogation, si vous sortez du cinéma ou du théâtre ce soir, vous devrez être rentré chez vous à 21h, nouvelle heure du couvre-feu. En tout cas, on a déjà un bon sujet de conversation ce matin, le retour de Karim Benzema en équipe de France. Retour de l'attaquant français après 5 ans d'absence. Le Madrid Hélène, rappelée par Didier Deschamps, qui s'est dit sur Twitter très fier de ce retour en bleu. Et puis des milliers de policiers attendus devant l'Assemblée nationale aujourd'hui à 13h à l'appel de tous leurs syndicats pour exprimer leur ras-le-bol après les meurtres d'Éric Masson et de Stéphanie Montfermé ces dernières semaines. 5-7 se poursuit en musique avec Peter Gabriel dans la partition d'Amblin Roche. On arrive dans quelques secondes. Europe 1. La partition d'Omblin Roche, l'histoire cachée derrière un artiste, une chanson, un album. Il fait partie des musiciens britanniques les plus fantasques. Un créateur à l'imagination débordante, ouvert sur toutes les musiques du monde. Avec le groupe Genesis qu'il a créé à la fin des années 60, Peter Gabriel a donné ses lettres de noblesse au rock progressif.
Et oui, peu de groupes peuvent se vanter d'avoir connu deux existences aussi riches l'une que l'autre. Pour Genesis, l'ère Peter Gabriel était novatrice, complexe, farfelue peut-être, avec tous ses costumes, ses accessoires. Peter Gabriel tenait la barre, décidait des mises en scène. Quand le reste du groupe a cessé de le suivre dans ses délires créatifs, il s'est lancé en solo en 75.
Et il va attendre 9 ans après Genesis, Peter Gabriel, pour connaître enfin une renommée internationale.
Entre-temps, il n'a cessé bien sûr de jouer de la musique exactement comme il l'entendait. En 1986, Peter Gabriel a 36 ans, une belle carrière derrière lui. Il a coupé ses cheveux longs, une petite mèche vient lui chatouiller le front. Il a effacé les traits noirs de crayon Kohl qui dessinaient ses yeux.
Un Peter Gabriel vraisemblablement plus pondéré et plus sérieux.
Les chansons à rallonge, c'est terminé, les costumes aussi, et les sujets sont parfois graves. Kate Bush, Don't Give Up, sur les années Thatcher au Royaume-Uni, qui parle d'un couple dont le mari au chômage est sur le point de tout abandonner.
On assiste à un joli défilé d'invités dans le studio de Peter Gabriel.
En plus de Kate Bush, le guitariste funk Nile Rodgers, le producteur québécois qui travaille avec U2, notamment Daniel Lanois, le batteur de The Police, Stewart Copeland, quand ce n'est pas le petit nouveau de la bande, le français Manu Katché. Peter Gabriel met en lumière le talent des autres. Leur univers affectionne particulièrement ce qu'on appelle la world music et permet à Youssou N'Dour de se faire un nom au-delà des frontières du continent africain.
En recherche constante de sons universels, pour le titre qui va littéralement le mettre sur orbite, c'est la tonalité d'une flûte japonaise qui attire son oreille.
La flûte shakuhachi, un morceau de bambou à 5 trous, mais Peter Gabriel utilise une version, disons synthétique. Il extrait de la bande de données d'un synthétiseur l'Emulator 2, un clavier échantillonneur capable donc de boucler des sons et qui va rendre fou tous les claviéristes des années 80.
Sledgehammer, iconique, on se rappelle tous du clip un peu loufoque, hein, tourné en stop motion.
Oui, il y a la locomotive qui tourne autour du visage de Peter Gabriel, les poulets sans tête, sans plumes, qui dansent sur une scène devant un rideau fuchsia. Voilà la flûte Shakuhachi, oui. Hein, qu'on entend par le synthétiseur. Peter Gabriel et son album mythique So, sorti le 19 mai 1986. Merci.
L'histoire cachée derrière une chanson, un artiste, un groupe, la partition d'Omblin Roche, tous les matins, juste avant 6h30. Merci Omblin.
Merci, merci à Fabrice Lafitte pour le montage.
Laurent Cabrol, la météo, ouais. et un déconfinement qui s'annonce aussi arrosé dans tous les sens du terme.
Oui, arrosé à l'eau, remarquez, hein, mais bien arrosé. Alors sur le littoral méditerranéen, ce sera vraiment l'exception. Le soleil va être là, ou il est déjà là d'ailleurs, avec des vents assez forts, de 70-80 km/h. C'est pratiquement la seule région où vous êtes assuré de prendre votre petit café à la terrasse. Val-de-Loire, Limousin, Poitou-Charentes, Sud-Ouest, Cévennes et Bretagne, là l'amélioration ira crescendo. Attention, parce qu'il y a quand même pas mal de pluie en ce moment, des petites pluies ou des grosses pluies sur la Vendée, sur le littoral atlantique notamment. Si vous habitez la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, le Berry, l'Auvergne, la Franche-Comté et Rhône-Alpes, vous êtes dans un secteur où le temps est instable, orageux, des averses, il va progressivement devenir instable et de plus en plus instable dans la journée, avec même de la neige en montagne sur les Alpes du Nord à partir de 2000 mètres, tenez-vous bien, comme en plein hiver. Sur Lyon, ce sera, disons... Allez, orageux dans l'après-midi, beaucoup mieux ce soir. Orageux dans l'après-midi et beaucoup mieux ce soir, ce sera le cas aussi sur Paris, avec une matinée, ma foi, qui restera quand même très arrosée tout court. Allez, Nord-Picardie, région parisienne, Normandie, c'est arrosé. Et puis, les températures maximales, j'y reviendrai tout à l'heure, entre 14 et 18 degrés, ce sera la moyenne nationale, c'est un peu comme hier.
Merci Laurent, on vous retrouve dans une demi-heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Mercredi 19 mai, bon réveil, un nouveau journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 6h30.
Rime n'est pas stupide, il est même intelligent. Il sait très bien qu'il vient dans un groupe, qu'il a un vécu. Il y a une ambiance forcément en dehors du terrain et sur le terrain qui est bonne.
Didier Deschamps réintègre Karim Benzema dans l'équipe de France de foot. L'attaquant du Real disputera l'Euro le mois prochain avec les Bleus. Il n'avait plus été convoqué depuis 2015. Eux n'ont plus vu de clients depuis de longues semaines. Les commerçants à l'heure de la réouverture aujourd'hui. Deuxième des quatre étapes du déconfinement. Plus de projets d'exploration pétrolière et gazière. Plus de ventes de voitures thermiques d'ici 15 ans. Les recommandations choc de l'Agence internationale de l'énergie pour tenir les engagements de neutralité carbone.
Juste après ce journal, une marche citoyenne devant l'Assemblée pour demander des peines planchers pour les agresseurs de policiers. Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, est mon invité.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il avait joué son dernier match à Nice en 2015. Et comme un symbole, c'est justement sur la Riviera qu'il fera son retour en équipe de France le 2 juin prochain pour un match de préparation à l'Euro contre le Pays de Galles. Karim Benzema, bel et bien de retour en équipe de France.
Dont il avait été mis à l'écart après sa mise en examen dans l'affaire de la sextape. Un dossier qui n'est pas bouclé. Procès attendu en octobre prochain. Mais devant ses performances en Espagne, Didier Deschamps a fini par changer d'avis, Cyril de la Morinerie.
Oui, avant Didier Deschamps se crispait et bottait en touche lorsqu'on lui posait une question sur Karim Benzema. Mais hier soir, c'était tout l'inverse. Le sélectionneur était souriant et heureux d'évoquer le retour de l'attaquant du Real Madrid, vantant ses qualités de footballeur et sa saison de rêve. C'est lors d'une rencontre longtemps tenue secrète que les deux hommes ont enfin pu échanger, révèle Didier Deschamps.
Il y a une étape importante, c'est le fait qu'on puisse se voir et discuter ensemble. Discussion qui a eu lieu, je ne vais pas vous donner l'heure, le lieu et la date, mais il y a un petit moment quand même. Ça s'est passé là, ça se passe aujourd'hui, on ne peut pas faire machine arrière, voilà.
D'ailleurs, la nouvelle est plutôt bien perçue par les joueurs français. Léo Dubois, joint par Europe 1, est enthousiaste.
C'est un joueur avec une qualité énorme et le fait de pouvoir retrouver ce style de joueur pour aller sur une grosse compétition comme celle qui nous attend, ça peut être que bénéfique pour nous.
En revanche, il n'est pas certain qu'Olivier Giroud, même s'il n'est pas rancunier, soit aussi enthousiaste. Karim Benzema l'avait comparé à un karting. Moi, je suis la F1. Avait affirmé l'attaquant du Real Madrid.
Mais pas d'inquiétude à ce sujet, hein, disait hier Didier Deschamps. Les Bleus se retrouveront mercredi prochain à Clairefontaine.
6h33, un avant-goût de la vie d'avant, le retour des jours heureux, le parfum de la liberté. Ces titres s'affichent à la une de la presse quotidienne régionale en ce jour de déconfinement.
Et avec les premiers rayons du soleil ce matin, au moins le jour qui se lève, les premiers rideaux qui s'ouvrent, on sera en terrasse pour un premier café tout à l'heure dans le journal de 7h. Des cafetiers, restaurateurs, commerçants qui ont profité de la journée d'hier hier pour régler les derniers détails. Reportage rue du Commerce dans le 15e arrondissement de Paris. Nicolas Feldman pour Europe 1.
C'est les réservations affluent.
Commerce Café, bonjour.
Bonjour, je vous appelle pour savoir s'il faut réserver.
Madame, je suis sincèrement désolé, on ne prend aucune réservation.
Pas de réserve, premier arrivé, premier servi.
On est sous pression.
Il va y avoir un gros afflux de Parisiens. Hein. Là, je suis en train de passer les oranges et les citrons, hein, afin de faire une bonne mise en place, des cocktails, etc. Quoi, hein.
Marcel, vous êtes le gérant, comment vous allez organiser votre terrasse?
Alors regardez, donc sur le devant, on va aligner toute la terrasse qui est à peu près 70 places. Et comme on a le droit d'extension de terrasse, on va s'étaler devant le square. On n'a rien laissé au hasard.
Bonjour madame, vous allez bien?
Je galère depuis une heure. Moi je suis en train de nettoyer la vitrine. Les boutiques commencent à revivre, les portes s'ouvrent, voilà, on nettoie, on met tout en place. Tout le monde est ravi de se retrouver.
Bonjour.
Delphine, on est dans votre boutique de vêtements, alors le présentoir est bien en ordre, la collection été est arrivée, vous êtes prête?
Ah ben plus que prête, je suis heureuse de reprendre une vie normale, de retrouver les petites clientes, les sourires, j'en ai la chair de poule, tellement je suis contente.
Du bonheur, sous condition tout de même, hein, avec des jauges pour retrouver notamment les magasins. Un décret le rappelle encore ce matin, pas plus de 35% de la capacité d'accueil dans les cinémas et les salles de spectacle. Le couvre-feu, lui, passe de 19 à 21h.
Eux ont été mobilisés depuis le début de la crise. Chauffeurs, livreurs, caissiers, agents d'entretien, aides à domicile. Les employés de la deuxième ligne, aussi essentiels que précaires.
Oui, c'est ce qui ressort d'une étude du ministère du Travail qui pointe, Clément Le Saffre, leurs conditions de travail.
Oui, l'étude menée par la DARES, le département statistique du ministère du Travail, met clairement en évidence la précarité de ces 17 professions dites de deuxième ligne. Des agriculteurs aux ouvriers du bâtiment en passant par les bouchers, ils sont deux fois plus souvent en CDD ou en intérim que la moyenne des salariés du privé. Ils sont également 26% à avoir un emploi à temps partiel contre 18% en moyenne dans le privé. Ils déclarent deux fois plus d'accidents du travail et puis ils sont plus souvent mobilisés le dimanche, la nuit et en horaire décalé. Le tout pour un salaire peu élevé, 1630 euros net par mois à temps plein en moyenne pour les travailleurs de deuxième ligne, contre 2330 pour l'ensemble des salariés du privé. Pourtant, et c'est la surprise de cette étude, dans ces 17 professions, l'indice de satisfaction est quasiment identique à la moyenne nationale, 6,7 sur 10 contre 6,9. Les conditions de travail difficiles sont en fait compensées par un fort sentiment d'utilité sociale, notamment chez les aides à domicile et les aides ménagères.
Clément Le Saffre. La mobilisation des policiers à partir de 13h devant l'Assemblée nationale, deux semaines après le meurtre d'Éric Masson à Avignon. Ils demandent notamment que les peines prononcées à l'encontre des agresseurs des forces de l'ordre soient effectivement exécutées. Du Parti communiste au Rassemblement national, de nombreux élus seront présents, de même que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Et on y revient dans moins de 5 minutes avec mon invité juste après ce journal. C'est peut-être le plus grand défi que l'humanité ait eu à relever. Les mots du patron de l'Agence internationale de l'énergie au sujet des efforts à réaliser pour limiter le changement climatique.
Avec un chemin déjà dessiné par l'agence qui préconise des mesures drastiques, hein, Virginie Salmen.
Oui, le pétrole et le gaz appartiennent au passé. C'est la première fois que l'Agence internationale de l'énergie est aussi catégorique. Il n'y a plus lieu de creuser de nouveaux forages pour extraire du pétrole. Idem pour le gaz, puisque 90% de la production d'énergie devra être renouvelable d'ici 2050. Comment ? Ça passe par l'électrification des voitures, la multiplication par 8 de la production d'énergie solaire et éolienne, et puis le recours à l'hydrogène et au stockage de carbone. Et tout ça aura un effet positif sur l'emploi, selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie, décryptées par Lola Valéjo, directrice du programme climat de l'IDRI.
Cette transition qui est majeure va avoir un effet net positif en termes d'emploi, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de création que de destruction, même s'il reconnaît qu'il va y avoir une transition et un besoin d'accompagnement très fort de la part des gouvernements.
Autre mesure essentielle défendue par les experts de l'AIE, ne plus vendre de voitures, essence ou diesel, neuves, nulle part dans le monde d'ici 2035.
Virginie Salmen.
Dans le journal de Marion Calla. Merci Marion, il est 6h38. Europe 1. L'heure d'accueillir l'invité de ce 5-7. Bonjour Christophe Rouget.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Les policiers dont vous faites partie manifestent donc cet après-midi à 13h devant l'Assemblée nationale. Vous appelez tous les citoyens qu'ils souhaitent à vous rejoindre. La quasi-totalité de la classe politique sera aussi représentée, dont le ministre de l'Intérieur. Vos revendications, votre regard sur cette première aussi qui fait beaucoup parler, c'est dans quelques secondes. A tout de suite.
Théo Manval. sur Europe 1.
6h40, Christophe Rouget, secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, est donc avec nous. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera là cet après-midi dans votre manifestation, celle des policiers. C'est un soutien bienvenu ou bien se déplacer ?
Vous savez, tous les soutiens sont bienvenus. C'est un mouvement que nous avons voulu populaire, puisque malheureusement nous avons un contexte très difficile d'insécurité avec le meurtre successif de policiers, la secrétaire administrative Stéphanie Montfermé à Rambouillet, ensuite notre collègue Éric Masson abattu lors d'un contrôle de deal à Avignon, et tous les jours des policiers sont blessés, comme encore l'autre jour à Rive-de-Gier où notre collègue était dans le coma. Donc tout, évidemment, les hommes politiques peuvent venir, mais ils seront considérés comme des citoyens, comme les autres, et donc ils ne viendront pas à la tribune, ils ne prendront pas la parole, ce sera un hommage à nos collègues assassinés, un soutien à la police républicaine, c'est un message qui doit dépasser les rivalités politiques et les enjeux électoraux du moment.
Écoutez ce que disait hier matin sur Europe 1 de cette venue de Gérald Darmanin, l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy.
C'est très étonnant, c'est la première fois je crois qu'on voit un ministre de l'Intérieur manifester contre sa propre inaction, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Moi je crois que quand on est ministre de l'Intérieur, on a mieux à faire que manifester, on a les leviers pour agir, et c'est ça qui est attendu aujourd'hui de Gérald Darmanin.
Il vient manifester contre sa propre inaction, vous êtes d'accord ?
Tous les soutiens sont bienvenus aujourd'hui. Ensuite, effectivement, viendra le temps de répondre aux questions et aux aspirations légitimes d'abord des policiers, mais aussi des citoyennes et des citoyens. Donc ce sera au président et au gouvernement de prendre des décisions, et nous jugerons sur les actes, notamment sur le Beauvau de la sécurité intérieure, que nous allons reprendre le 27 mai par une table ronde sur la police et la justice, qui est vraiment centrale. Et nous verrons s'il y a un vrai projet pour la sécurité, avec des mesures concrètes, si nous avons une meilleure réponse pénale, plus rapide, plus dissuasive, si nous avons une vraie loi de programmation qui permette de mieux organiser la police, de mieux former les policiers, de mieux les rémunérer et d'améliorer la sécurité de nos concitoyens.
L'une de vos demandes principales, ce sont le retour des peines planchers, des peines minimums contre les auteurs de violences contre les forces de l'ordre.
Oui, aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a un problème. Les Français, ils ne supportent plus, vous savez, de voir aujourd'hui quelqu'un qui a 25 ans a 30 condamnations à son actif. Ils ne supportent plus de voir des dealers de drogue qui sont remis en liberté parce que il n'y avait pas d'interprète au tribunal, ou comme à Valence, parce qu'il n'y avait pas d'agent de la pénitentiaire pour le conduire au tribunal. Et il y a des choses aujourd'hui qui ne sont pas acceptables. C'est que lorsque un policier est agressé, par exemple, lorsque nous avons fini la procédure contre ce voyou, ils sortent du commissariat sans avoir vu un juge. Donc effectivement, il faut que la réponse, elle soit pénale, elle soit dissuasive, elle soit effective, et il faut discuter d'un minimum pour les peines à appliquer.
Le Premier ministre Jean Castex a déjà pris des engagements en vous recevant il y a 10 jours. Il va étendre à 30 ans la période de sûreté, c'est-à-dire pendant laquelle un auteur de crime contre un policier ou un gendarme ne pourra pas sortir de prison. Il va limiter aussi les possibilités de réduction de peine en la matière. Ce n'est pas assez ?
Il y a eu de bonnes propositions qui ont été faites par le Premier ministre, mais vous savez, maintenant, il faut les mettre en musique, il faut des actes législatifs, il faut des circulaires du ministère de la Justice, et il y a des choses qui sont encore améliorées, parce que augmenter le quantum d'une peine, c'est très bien, mais aujourd'hui, le quantum des peines qui existent n'est déjà pas appliqué.
Donc, faut déjà appliquer la loi actuelle avant d'en créer une autre.
Appliquons la loi, je pense notamment aux guet-apens, où lorsque tous les jours des policiers sont attaqués et des pompiers dans des guet-apens, on n'applique pas déjà les lois qui existent. Donc appliquons déjà les lois qui existent, faisons en sorte que la justice fonctionne. Nous ne sommes pas en opposition à la justice, pas du tout. Nous voulons que la justice ait les moyens de travailler et de faire son métier au quotidien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Les peines planchers, Christophe Rouget, ça a existé sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy en 2007. Elles ont été supprimées en 2014. Vous savez qu'elles n'ont pas fait baisser le taux de récidive, ça a été montré par un rapport du ministère de la Justice en 2012.
Tout à fait, même si elles existent dans certains pays, mais il existait aussi avant 1994 dans le code pénal, donc des peines minimales.
Europe 1, Théo Manval.
Et Anissé Mbida pour l'innovation du jour. Bonjour Anissé.
Bonjour Théo.
Une innovation ce matin qui pourrait se retrouver dans les piscines qui rouvrent aujourd'hui pour les mineurs. Vous avez déniché un robot maître nageur qui va sauver tout seul les personnes en détresse.
Oui, c'est une sorte de mini brancard autonome qui stationne tranquillement au fond de la piscine. Il fonctionne avec des caméras de surveillance qui analysent le mouvement des baigneurs. Et dès qu'elle détecte une personne qui est en panique, le robot va quitter son emplacement, reconnaître la posture de la personne et se positionner le long de son buste pour bien l'accrocher et la faire remonter à la surface gaz, même si elle a perdu connaissance.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces robots pourraient remplacer un jour les maîtres nageurs?
Non, je pense plutôt qu'ils pourraient les aider. Il faut savoir qu'en France, on connaît une pénurie de maîtres nageurs. Dans certaines villes, ça oblige à réduire les horaires d'ouverture et même à fermer certaines piscines. Eh bien, ce robot pourrait tenir la garde quand le titulaire est en train de donner un cours ou quand il doit intervenir dans un autre bassin. Mais surtout, l'autre nouveauté, c'est que ces robots fonctionnent aussi dans les lacs et en mer, là où la surveillance est plus difficile.
Est-ce qu'ils sont déjà utilisés quelque part, justement?
Alors, ils viennent tout juste d'être présentés par l'Institut Fraunhofer en Allemagne. Il y a un modèle qui a d'ailleurs été testé dans le lac de Halle, toujours en Allemagne, et qui a été capable de chercher, sécuriser et ramener un mannequin en 2 minutes.
2 minutes.
Et on le rappelle, hein, les victimes doivent être réanimées au moins 5 minutes, hein, ou au moins au bout de 5 minutes, si on veut éviter qu'elles aient des dommages au cerveau.
Précieuse innovation du jour. Merci beaucoup, Anissa Mbida. À demain. 6h51, ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents. Les correspondants d'Europe 1 nous attendent pour la revue de presse internationale qui démarre en Espagne ce matin. Bonjour Henri de Laguérie.
Bonjour.
Où l'on parle inévitablement du retour de l'attaquant madrilène Karim Benzema avec les Bleus de l'équipe de France.
Oui, à en croire le journal Marca, c'est un tremblement de terre, c'est une annonce choc avant 7 euros, car personne n'imaginait que Didier Deschamps reviendrait sur sa position, écrit Pablo Polo. C'est justement ce journaliste qui avait réalisé cette interview de Benzema en 2016, avec cette malheureuse déclaration, Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Mais la page est désormais tournée. À 33 ans, le Français peut être le meilleur joueur de la Liga, estime AS. Il a réalisé une saison exceptionnelle avec 29 buts en 45 matchs, précise le journal. Il était temps, estime le journal El Mundo. En Espagne, la presse n'a jamais compris pourquoi la France se privait d'un tel joueur. Pour l'éditorialiste Jorge Bustos, c'est en carrosse tel un roi que Benzema devrait arriver au premier rassemblement des Bleus à Clairefontaine pour préparer l'Euro.
Benzema en carrosse. Merci Henri de Laguérie, correspondant Europe 1 en Espagne. Direction maintenant le Maroc, où l'on part retrouver Alexandre Blanc. Bonjour Alexandre.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui fait la une des journaux marocains?
Eh bien, ce sont les milliers de Marocains qui ont rejoint l'enclave espagnole de Ceuta, au nord du Maroc, du jamais vu, selon le magazine Tel Quel. Hier et avant-hier, 8000 hommes, femmes, enfants ont franchi la frontière devant une police marocaine qui les regardait sans intervenir, note le site Média 24. La moitié de ces migrants ont été reconduits à la frontière, mais l'ampleur de ces arrivées interroge, alors que les relations entre le Maroc et l'Espagne sont au plus bas. Le site Express explique que Rabat reproche à Madrid d'accueillir sur son sol le chef du Polisario, le mouvement indépendantiste du Sahara occidental, malade du Covid-19. Le premier ministre espagnol s'est rendu à Ceuta et Madrid a approuvé en urgence une aide de 30 millions d'euros au Maroc pour améliorer la surveillance de ses frontières. L'Espagne passe à la caisse pour en finir avec les migrants dans les plus brefs délais, conclut le quotidien L'Opinion.
Alexandre Blanc, Europe 1 au Maroc. Et on termine ce tour du monde en Turquie avec vous, Cerise Sudrilodu, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les grands titres ce matin chez vous?
Eh bien, ce sont les accusations lancées par un chef mafieux, Sedat Peker. Depuis 3 semaines, raconte le site d'info Bianet, il publie des vidéos qui mettent en cause plusieurs des régions turques, des vidéos savamment mises en scène depuis Dubaï où il a fui, corruption au plus haut niveau de l'État, écrit en une au quotidien Cumhuriyet. Sedat Peker accuse en effet l'actuel ministre de l'Intérieur de l'avoir protégé. Il affirme aussi qu'un de ses prédécesseurs s'est accaparé un port de plaisance quand son fils, actuellement député, est accusé d'avoir violé et tué une étudiante. Bianet fait le détail de ces révélations et Evrensel réclame qu'une enquête soit lancée. La presse pro-gouvernementale se fait quant à elle très discrète. Le quotidien Hurriyet se demande si ces révélations ne seraient pas téléguidées par les Émirats Arabes Unis ou carrément par les États-Unis pour se débarrasser du gouvernement Erdogan.
Merci Cerise Sudrilodu à Istanbul pour Europe 1, votre fenêtre sur le monde avec nos correspondants. C'est tous les matins, juste avant 7h.
Europe 1.
6h54, la météo et le journal arrivent dans quelques secondes et Mathieu Béliard pour le 7-9. A tout de suite. 6h57, très bon réveil déconfiné. Mathieu Béliard vous accompagne pour
bonjour
de nouvelles
Théo
heures d'info.
Manuel. Oui, merci. Vous savez, vous allez pouvoir partir là.
Je suis
au café en
terrasse.
Il a l'œil qui frétille.
Dans 30
secondes. Manval, il est prêt. Oui, vous allez le retrouver en terrasse juste à côté du métro Javel à Paris. Théo Manval dans quelques toutes petites minutes. Merci Théo d'avoir réveillé nos auditeurs depuis tôt ce matin. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Le monde a changé. On va vous le raconter. Et quel étonnant monsieur que ce Didier Deschamps après une journée de rumeurs. Le sélectionneur confirme que Karim Benzema fera bien bien son retour en bleu pour l'Euro, la grande réconciliation, le pragmatisme aussi du coach. On va en parler ce matin, nous étions à Madrid dans la revue de presse internationale. À l'instant, retour dans le quartier de Bron, banlieue lyonnaise où Benzema a débuté, c'est dans le journal à suivre. Et puis à 8h, on appelle un joueur de l'équipe de France.
Second poteau, Pavard.
Vous vous souvenez bien sûr de ce but du champion du monde 2018. Benjamin Pavard nous dira comment cette nouvelle est reçue dans le vestiaire des Bleus. Puis enfin, l'édito sport, bien sûr, avec Virginie Fulpin. Ça va au-delà du sport hein, que cette nouvelle Deschamps et Benzema nous montre la voie de la réconciliation nationale. C'est dans 20 minutes, rien que ça. Et si ce n'était pas le sujet idéal pour la conversation en terrasse aujourd'hui? C'est une bonne journée qui démarre finalement entre les supporters qui se réjouissent et ce parfum de réouverture générale dans tous nos journaux. Hein. Nous sommes en direct des terrasses, des lieux de culture, nouvelle étape du déconfinement aujourd'hui. C'est évidemment à la une et on en parle avec Anne Hidalgo également, invitée de Sonia Mabrouk, à 8h15, la maire de Paris. Les terrasses, tiens, ça dépend pour qui, Laurent Cabrol?
Ah oui, ça dépend pour qui. Alors, tenez.
Bonjour Laurent, pardon.
Salut Mathieu, bonjour à tous. En Méditerranée, pas de problème, vous pouvez y aller, mais soyez à l'abri du vent. Hein. Sur la vallée de la Loire, le Limousin, le Poitou-Charentes, le Sud-Ouest, les Cévennes et la Bretagne, vous avez bien noté votre région, et bien là, nous allons vivre une amélioration rapide, tout simplement, parce que l'anticyclone commence à pousser avec ses petits bras musclés, et il apporte des éclaircies dans ces régions. Maintenant, les autres régions, c'est moins souriant. Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Berry, Auvergne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, le temps est instable, il y aura des averses, il y aura des orages. À Lyon, les orages auront lieu dans l'après-midi plutôt. Et là, pour dans ces régions, allez, un petit espoir en fin de journée. Sur le Nord Picardie, la région parisienne et la Normandie, c'est presque la même chose. Progressivement, nous allons avoir un temps de plus en plus agité, notamment sur la capitale, avec des orages dans l'après-midi, comme pour Lyon. Et puis le soir, ça ira un petit peu mieux. Alors si vous avez quelque chose à faire en terrasse, attendez en fin de journée, ce ne sera pas plus mal dans ces régions, notamment sur la capitale. Les températures maximales, entre 14 et 18 degrés. Et si je vous recommandais d'attendre demain pour...
Chiche, on va voir.
Parce que demain, ce sera...
très entendu.
Demain, ce sera sympa.
Oui, oui, mais pas sûr que vous soyez très écouté sur ce coup-là, Laurent. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde changer.